Ah camarade, bien le bonjour. Vous m'avez manqué, sachez-le. Mais un semestre d'abord, puis un semestre qui se transforma en année, ont été particulièrement chargés et m'ont empêché de reprendre aussi rapidement que je l'eus voulu. Mais surtout, c'est le sujet même qui m'a ralenti. Rappelez-vous, le 17e siècle, c'est un siècle d'accélération. On l'avait vu dans la saison précédente, le monde se mettait alors en place, s'alignait sur un nouveau standard. C'est un réseau mondial, de Potosi et Malacca en passant par Wurtemberg et Saint-Malo. Le vieux monde, ce vieux monde de Samarcande, de Tenochtitlan et d'une église catholique dominant l'Occident, était mort. Ces soubresauts dévastants des sociétés autrefois éparses, qui souffrent de leurs nouveaux liens. Sont les empires de la poudre, les Ottomans, les Mogols, les Espagnols, les Ming, les Russes, qui sonnaient l'alali sur les Amériques, sur les océans, sur la steppe primordiale, d'où venaient les hordes qui avaient si souvent ébranlé les fondations du monde. Et dans tout ça, des potentats, des sultanats, des aventuriers chassant l'épice et le Coran dans les criques javanaises, clamant des prix sur la grève lisboète. C'est un monde toujours plus complexe, si complexe, que je ne savais pas et que je ne sais toujours pas comment lui rendre justice. Devrais-je me contenter de vous donner des grandes lignes, de résumer des interactions complètes à quelques mots glanés sur une source tertiaire? Ce serait courir le risque de rester à la merci des premières sources venues, de faire résonner des narrations coloniales qui aplatissent la réalité et qui assèchent nos noosphères. On l'avait vu avec toutes les sagas sur les VOC, sur la VOC. Non. Tout cela valait mieux que ce traitement. Mais alors, mon temps n'étant pas extensible, surtout cette année et encore pour quelques mois, que faire? Eh ben, pour se remettre en jambes, je vous propose tout simplement de faire un pas de côté. Qu'entends-je par là? On avait esquissé quelques traits lors d'épisodes sur les croisades, sur 1066, épisode dont je suis par ailleurs assez fier, mais on n'était pas vraiment rentré dans le sujet. La colonisation, c'est un peu comme un cambriolage en fait. On pense que ça n'arrive qu'aux autres, dans quelques contrées au-delà des mers. Et pourtant, reprenons la définition que j'avais pu esquisser. La colonisation, c'est quoi? C'est une conquête et une domination violente d'une ethnie géographiquement distincte, avec comme objectif la redirection de flux économiques. Ça va, c'est une définition assez simple, assez calée, et on a vu que ça s'applique. On a vu que ça marchait pour plusieurs cas, comme les colonisations modernes, les colonisations du début de l'ère moderne, avec la Sibérie, voire même, pour 1066, et la conquête normande de l'Angleterre. On peut voir, de nos jours, un grand nombre de colonisations réussies. Alors, qu'est-ce que j'entends par réussie? Eh bien, tout simplement, on oublie que ça a été une colonisation. Plus personne, clairement, ne va penser que l'Angleterre est une colonie normande. On oublie que le Midwest américain ou la Sibérie furent aussi des projets coloniaux. On oublie que l'Allemagne, c'était quoi? C'était un projet colonial de Charlemagne et des chevaliers teutoniques. On oublie que la Muscovie vient par des moyens détournés d'une colonie commerciale viking. Une colonie réussie, c'est quand la frontière entre colonisateur et colonisé finit par s'effacer, soit par destruction des indigènes et de leur culture, le Midwest ou l'Australie, soit parce que la frontière entre colonisateur et colonisé s'efface. C'est l'exemple du nord de l'Inde avec les Perses, c'est l'Angleterre entre Saxons, Normands et Celtes. Dans une certaine mesure, et pour présenter un autre modèle, beaucoup de peuples de Russie ont été assimilés dans des structures de gouvernement sans forcément s'intégrer ethniquement. Mais parfois, malgré des siècles de domination et de colonisation, la frontière ne s'efface pas. elle semble même se renforcer. Parfois, un pays, un peuple, une île, va vivre une longue colonisation, passer par des phases plus ou moins violentes, mais en sortir plus cohérent, plus nationalisé. Un pays qui aurait vu passer toutes ces phases classiques de colonisation, une sorte de urcolonie européenne. On pourrait parler de la Pologne, évidemment, un pays relativement pauvre jusqu'il y a peu, colonisé et dominé par un voisin envahissant, et avec un certain penchant pour la pomme de terre. Mais non, on va garder ses caractéristiques, mais on va les voir un tout petit peu plus à l'ouest. Aujourd'hui, et pour quelques épisodes, nous allons parler de l'île d'Emeraude, An Éireann, l'Irlande. Pourquoi l'Irlande ? Déjà parce que j'adore ce pays, que j'ai des liens personnels avec cette magnifique île, mais aussi parce que c'est un cas super intéressant. L'Irlande, c'est quoi ? C'est tout simplement une des plus vieilles colonies d'Europe. Une île sans vraie continuité géographique avec sa métropole actuelle, qui se sent encore aujourd'hui comme une colonie. Et ça, c'est unique. La France ne se sent plus colonie italienne d'un empire romain, les pays baltes ne se sentent plus colonie teutone. Pourtant, l'Irlande se sent encore, dans sa majorité ethnique, colonie anglaise. Le Nord vit encore au rythme de tensions exacerbées d'ailleurs par le Brexit et par les changements démographiques. Ce n'est qu'il y a quelques mois à peine que les catholiques sont devenus enfin plus nombreux que les protestants en Irlande du Nord. La République même vit encore dans un sentiment d'antagonisme culturel, une relation d'amour et de haine, de liens forts économiques avec son ancien colonisateur. Peut-être pourrait-on y voir une relation similaire avec l'Algérie ou la Tunisie et la France d'aujourd'hui, ou bien la Côte d'Ivoire. L'Irlande, et on va le voir, a vécu des archétypes de la colonisation. Un roi détrôné réclame de l'aide d'une puissance, des aventuriers qui arrivent et se voient plus tard légitimisés par la métropole. Le remplacement des appareils d'État, des colons, des plantations et plus tard un génocide. Voire deux génocides, soyons généreux. Puis une situation d'apartheid où les catholiques devinrent pour plusieurs siècles des citoyens de seconde classe dans leur propre pays. C'est tout un système culturel qui s'est développé sur l'île. Première colonie de ce qui deviendra le plus grand empire que le monde ait jamais vu. Et ça je pense, camarades, que ce n'est pas anodin. Nous verrons dans cette série ce qui a pu se passer entre 1166, le début accepté des conquêtes normandes, à 1690, la bataille de la Boyne, qui va conclure un grand cycle comme on le verra ensemble. Ça nous permettra de rattraper grosso modo le podcast et de voir les flux croisés entre notre série principale et ce qui pouvait se passer en Europe. Nous verrons notamment comme une intensification de la colonisation sur la période 1580-1620, si cette période vous rappelle quelque chose d'épisodes récents, et nous verrons comment c'est peut-être lié à des changements climatiques. Mais maintenant, passe à la suite, passe au reste de l'épisode, mais avant tout, interlude musical.
En cycle de légende, il y en a une dans ma mémoire qui restera parmi les grandes. C'est Popée païenne près du pays du clan des Landes, en pleine terre d'Ulster, province de l'Irlande. L'histoire d'un gamin, encore un jeune fougueux, à peine 7 ans, il a déjà le feu dans le bleu de ses yeux. Les druides lui ont prédit un drôle d'avenir, un choix à faire.
Il y a bien longtemps, les Tuatha Dé Danann vinrent en Irlande avec une grande flotte pour prendre la terre des Firbolg qui y vivaient. Ces nouveaux arrivants étaient les serviteurs de la déesse Danu. Et leurs sages possédaient de grands pouvoirs et étaient vénérés comme s'ils étaient des dieux. Ils étaient experts dans les arts druidiques, la magie, la prophétie et le savoir occulte. Quand ils arrivèrent sur les rives occidentales de l'Irlande, ils brûlèrent leur navire pour s'empêcher la tentation du retour. La fumée obscurcit le soleil et envahit les terres alentours 3 jours durant. Si bien que les firbolgs crurent que les Tuatha De Danann étaient arrivés, portés par un brouillard magique. Nuad était le roi des Tuatha De Danann et il les mena au combat contre les firbolgs. Ils donnèrent bataille à la plaine de Moytoa. Les Tuatha De Danann vainquirent les firbolgs et les chassèrent jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'une poignée de survivants. Les Tuatha De Danann bâtirent un grand royaume, dont les fondations persistent jusqu'à aujourd'hui, mais avançons quelques siècles. Au nord de l'Espagne, vivait une autre tribu, les Fils de Mille. Les Milésiens étaient aussi doués en magie et avaient erré pendant des générations. Ils avaient voyagé au lointain, aussi loin que la Grèce, l'Anatolie, l'Égypte. Les Milésiens envahissent alors l'Irlande et mènent bataille. Les Tuatha De Danann, sachant que la survie de leur royaume était en jeu, se battirent jusqu'à la mort. Leurs 3 rois et leurs 3 reines furent tués dans la bataille. Les Milésiens et leurs alliés, les Gaëls, victorieux, partagèrent l'Irlande en 4 royaumes. Leinster à l'est, Ulster au nord, Munster au sud et Connacht à l'ouest. Les Tuatha De Danann survivants ne quittèrent pas le royaume, mais partirent dans leur cive, leur forteresse souterraine qui, encore aujourd'hui, parsème les paysages de l'île. Librement traduit de Mary Henning, Over 9 Waves. L'Irlande. L'Irlande est un vieux pays, très vieux même, vu que sa tradition orale garde des récits préhistoriques. Le texte, ou les textes, que je viens de vous lire, retrace le mythe fondateur de l'Irlande. Soyons un peu créatifs dans notre lecture, si vous me le permettez. Les firbolgs, monstrueux, ne seraient-ils pas une des premières populations de l'île? Les premières vagues humaines arrivées du sud? Encore aujourd'hui, on trouve des traces d'ADN pré-indo-européenne en Irlande. Ensuite, vinrent les Tuatha De Danann. Possédant une magie puissante, avec de grands guerriers se battant sur des chariots, faisant collection de têtes de vaincus, pourrait-on penser, à tout hasard, aux grandes vagues d'invasion des Indo-Européens ? Ceux-là même qui remplacèrent beaucoup de populations par miscégénation plus ou moins forcée. Enfin les Milésiens, alliés aux Gaëls. Ne serait-ce pas les Celtes, les Gaulois ? Ceux-là même qui donnèrent la Galicie d'Ukraine, celle de Turquie, ceux qui donnèrent la Gaule et envahirent l'Espagne. Plus tard, le cycle de Fine fera le lien avec Saint-Patrick quand une nouvelle tradition arrive, mais ne remplace pas les anciennes. Assez unique en Europe, l'Irlande garde son lien avec son vieux passé. Quand l'Empire romain tua les Durides, vendit 1/10 de la Gaule en esclavage et en tua 1/10, quand les missionnaires chrétiens vinrent et quand Charlemagne brûla les arbres sacrés, les traditions pré-chrétiennes partirent elles aussi dans la fumée et les cendres. Quelques souvenirs dans les feux de la Saint-Jean, dans de vieilles pratiques soupiraient au coin des foyers. Mais rien de comparable au fort des fées, à la Samhain, au feu de la Beltane. Aujourd'hui encore, le soleil se lève sur Tara, où les rois d'Irlande observaient la vallée. L'histoire d'Irlande résonne à travers les âges, comme les motifs celtiques qui ornent les églises, comme ces mythes qui se répètent. Dans le cycle d'Ulster, monument de la littérature pré-chrétienne et médiévale, copié et recopié par les moines, le Ulster est envahi par les armées de Connacht. Seul Cuchulainn, dont le père est un Tuatha De Danann, échappe à une malédiction et peut s'opposer à l'invasion. Il se bat pendant des jours, des semaines pour protéger l'Ulster de l'invasion de Connacht. Il sent sa fin proche. Des mois qu'il se bat, Il a tué des armées entières, il a dû assassiner ses meilleurs amis. Mais pour ralentir l'invasion, alors qu'il sent sa fin approcher, il s'attache à un rocher. Voyant le guerrier toujours debout, les soldats n'osent pas s'approcher. Et ce n'est que quand son halo guerrier s'éteint que la Morrigane, sous forme d'un corbeau, se perche sur son épaule, qu'ils osent venir. Le 12 mai 1916, les derniers meneurs de l'insurrection de Pâques ont été pris dans les ruines de la grande poste de Dublin, où trône aujourd'hui une statue de Cuchulainn sur son rocher. Connolly, meneur de la rébellion, grand parmi les grands, doit être exécuté. Trop blessé pour se tenir debout, on l'attache au poteau pour qu'il puisse se tenir droit. 5 ans plus tard, l'Irlande est indépendante. L'histoire, encore et toujours, une histoire dont ne peut pas s'échapper en Irlande, dans les collines trop droites, vestiges des forts, des Tuatha De Danann, leurs cives où ils se sont réfugiés après leur défaite contre les Gaëls, dans les forêts où les mégalithes gardent les tombes. Mais là, et je le souligne, ce n'est pas parce que l'histoire résonne qu'il faut voir une Irlande millénaire, statique, une île préservée de la modernité à travers les âges. L'histoire de l'Irlande, c'est un mouvement, c'est une évolution constante dans la modernité des siècles. Sauveuse de la civilisation occidentale avec ses moines copistes, cible des barons normands, fournisseuse de mercenaires, l'Irlande, ce n'est pas une victime, mais un acteur. Alors, pourquoi parler de l'Irlande? C'est très joli tout ça, je fais du lyricisme, c'est magnifique. Mais dans ce podcast Histoire des colonisations, où on parle assez peu de l'Europe, pourquoi parler de l'Irlande? Eh bien, tout simplement parce que nous la connaissons, parce qu'il nous ressemble, pour parler crûment, parce que nous avons pu y aller, parce que ce sont nous. Ce peuple colonisé, ce n'est pas une victime, il a un passé, il a une histoire, et c'est facile de le comprendre, c'est notre peuple. Et là, évidemment, je ne parle pas pour tous les auditeurs, je ne parle pas pour tous les Français, je parle pour le fonds culturel français catholique occidental, qui peut plus facilement se reconnaître dans l'Irlande des siècles passés que dans d'autres royaumes qui paraissent plus lointains, qui ne sont pas intégrés dans nos récits historiques. Ce peuple colonisé, il a un passé, il a une histoire, c'est facile de le comprendre, c'est notre peuple. Alors que nous allons nous plonger dans l'histoire de l'Irlande pour quelques épisodes, rappelons-nous que l'Irlande n'est pas unique. Alors que nous allons nous plonger dans l'histoire de l'Irlande sur quelques épisodes, rappelons-nous que l'Irlande n'est pas unique. Pour un Cuchulainn, pour un Finn MacCool dont nous connaissons les exploits, combien de héros béninois, maliens, incas, amazoniens, birmans dont nous n'avons jamais entendu parler, dont je ne vais jamais avoir le temps de m'imprégner suffisamment de la culture de ces pays-là pour leur faire justice? Je ne vais pas parler de l'Irlande pour centrer notre histoire sur l'Europe. Vraiment pas, ce n'est pas l'objectif. Non, on va parler de l'Irlande tout simplement pour tout ce qu'elle pourra nous dire sur la colonisation des autres. En se rapprochant culturellement de cette colonisation de l'Irlande, j'espère pouvoir faire justice à tous les autres récits, à tous les autres peuples et à tous les autres pays qui seront colonisés. Merci et à bientôt pour le reste de cette série. As down the glen one is the horn to a city.